Voilà. Donc on va faire une continuité, une suite un petit peu à ce matin sur l'enlèvement de l'Église, le retour de Jésus. Je crois que c'est un sujet qui passionne beaucoup de gens, hein. Je le dis sans... Il n'y a pas d'arrière-pensée dans ce que je veux dire. Si vous faites un truc sur la prière, hein, ouais, si vous faites un truc sur l'enlèvement de l'Église, vous aurez plus de monde. En général, ça intéresse beaucoup plus les gens. Hein? Mais bon, je pense, c'est une remarque. Mais bon, voilà. Ouais, peut-être, ouais. Voilà. Voilà. Je vais, cet après-midi, je vais rien sortir de, j'allais dire, de nouveau, d'extraordinaire. C'est juste la parole. Et j'allais dire, c'est ça le plus important, parce que c'est de ça dont on a besoin. Je crois que c'est important de réaliser que par rapport à cette question, sommes-nous prêts? C'est ce qu'on a vu ce matin. C'est important de réaliser que c'est pas qu'une vérité du Nouveau Testament, hein, l'enlèvement de l'Église. On pense que c'est que dans le Nouveau Testament. Mais déjà dans l'Ancien Testament, vous avez des préfigurations de ça. Hein. Je pense à Énoch, hein, cet homme, hein, Genèse 5, déjà, Genèse 5, vous voyez, on est au tout début là. Hein. Il marcha avec Dieu, et puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Vous voyez, déjà là, vous avez une préfiguration de ce que sera l'enlèvement de l'Église. Il n'y a pas beaucoup de détails, mais on comprend que là, cet homme, hop, il a été enlevé, et puis vous allez un petit peu plus loin, vous arrivez à Élie. Hein, vous rappelez, Élie qui avait demandé la mort et il n'est pas passé par la mort. Voyez, hein, ouais. Comme quoi, vous voyez, il y a des prières des fois. Heureusement que Dieu les exauce pas. Hein. Hein, bon, ça m'interpelle, mais voilà encore une fois, Élie qui a été enlevé devant Élisée. Hein, et vous avez encore là une préfiguration de ce que sera l'enlèvement de l'Église. Alors, je crois que c'est important cet après-midi encore parce que ça sera un peu le thème, le but. Il faut être prêt, quoi. Hein. C'est un sujet plus que sérieux, plus qu'important. Et je voudrais encore que cet après-midi, ça puisse vous marquer. On va lire un premier texte. On le connaît bien, Matthieu 24, verset 36. Matthieu 24, verset 36, des paroles de Jésus. Tu peux me baisser un chouïa? Merci. Voilà. Jésus qui dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Allez, donc ceux qui s'aventurent à chercher une date. Hein. En 2015, il y en avait un qui l'avait fait. C'était pour le 15 septembre 2015. On est toujours là. Ma foi. Hein, c'était bon, certains prophètes là qui avaient annoncé, qui avait envoyé d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'avais reçu, mais à tout un tas de pasteurs, il avait envoyé un livre qu'il avait écrit, deux pavés comme ça, où notamment le premier, c'était sept preuves irréfutables du jour de l'enlèvement de l'Église. Sept preuves irréfutables. Donc ça m'avait intéressé. J'avais été regardé, j'avais tout ça. Bon, ben on est toujours là, quoi. Et bon, bref. Vous voyez donc que Jésus s'est pas trompé. Et justement, par rapport à ce verset-là, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc évidemment, la première question que les gens lui posaient, c'est, mais enfin, Jésus a dit ça. Et lui, il disait, oui, Jésus a dit ni le jour ni l'heure, mais il n'a pas parlé du mois et de l'année. Bon, c'est un peu tordu, mais enfin. Vous voyez, comme quoi, quand on veut tordre la parole. Vous voyez. Donc Jésus continue et il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Quand dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Voilà, je crois vraiment que c'est important de rappeler que l'enlèvement de l'Église, parce que le retour de Jésus commencera par ça, ça débute par l'enlèvement de l'Église, ça va être quelque chose de terrible. Je crois que c'est important de le réaliser, hein. Ça va être quelque chose comme le monde n'en a pas connu, n'en a jamais connu, hein. Vous savez, quand on lit des versets comme ça, notre problème à nous, c'est que nous, on les connaît. On les a lus, relus, entendus des tas de prédications. Mais quand il est dit de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé, de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée, je ne sais pas si on réalise, quoi. On a l'habitude de lire ça, mais ça va faire un choc, quoi. Ça va être quelque chose de terrible, vous voyez. Vous imaginez, le collègue de travail, il n'est plus là. Le matin, vous avez le boulot, le collègue, il n'est pas là. Il est pas là. Hein, le conjoint, il n'est plus là. Les enfants, ils sont plus là. Imaginez-vous, vous allez chez le voisin, il n'y a plus personne. Vous voyez? Ça va être quelque chose de terrible. Quelque part, je parle même pas de ce qui va graviter autour. Vous allez à l'église, vous allez vous retrouver avec 7-8 chrétiens. peut-être 15, je sais pas. Hein, et peut-être avec le pasteur. Ben oui, peut-être. Hein, le pasteur, il va passer d'une église de 200, il ne se retrouvera plus qu'avec 15. Vous voyez, bon, je le dis avec un peu d'humour, mais vous voyez, c'est un peu ça quand on y réfléchit. Et je ne parle même pas de ce qui va se passer, graviter autour, quand des accidents de voiture, des accidents d'avion, de train, parce que quand on y réfléchit, hein, imaginez-vous un couple, tous les deux s'en vont dans la voiture, hein, qui c'est qui conduit la voiture, vous voyez, les avions, enfin bref. Ça va être quelque chose de terrible. Et je parle même pas de BFM TV qui va tourner en boucle. Hein. Ça va tourner en boucle. Des millions de personnes ont disparu. Alerte info, vous voyez, comme on voit des fois. Mais ça va y aller, vous voyez. Hein. On sait qu'à la crucifixion de Jésus, quand vous lisez les textes, je ne l'ai pas donné aux vidéos, mais Matthieu 27, verset 51, il est dit que quand Jésus a rendu l'esprit, il dit, voici le voile du temple se déchirant en deux depuis le haut jusqu'en bas et la terre trembla. Les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Vous voyez, il y a eu un tremblement de terre à la mort de Jésus sur la croix. Quand vous allez un petit peu plus loin, au chapitre 28, c'est le chapitre de la résurrection, là encore il est question d'un tremblement de terre. Hein. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre et voici, il y eut un grand tremblement de terre, un grand. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vient rouler la pierre et s'assit dessus. Vous voyez, à la résurrection aussi, il y a eu un grand, grand tremblement de terre. Mais je crois que c'est important de réaliser qu'à l'enlèvement de l'Église, ça va être un tremblement de terre mondial. Mondial, vous voyez, peut-être pas dans le sens comme ça s'est passé là, à la crucifixion, à la résurrection. Ça va être une autre sorte de tremblement de terre, mais des milliers, pour pas dire des millions de personnes qui vont disparaître, vous voyez, ça va être quelque chose de terrible. Mais quand on réalise ça, je me dis, mais c'est important de réfléchir, où est-ce que j'en suis moi, hein, est-ce que je ferai partie de ce contingent de départ? Et je vais même aller plus loin, ça va être terrible après pour ceux qui vont rester là. Et là, franchement, je préfère même pas y penser, hein, parce que à partir du moment où l'Église va être enlevée, alors ça va laisser le champ libre à l'adversaire de nos âmes, ça va laisser le champ libre à l'Antichrist, hein, tout ce que la Bible nous décrit un petit peu. Et alors là, ça va être terrible. D'ailleurs, regardez, il y a ce passage qu'on connaît bien, on va l'afficher, de Thessaloniciens, où l'apôtre Paul parle de ces choses, parle un petit peu de ce qui va se passer après, quand il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Et regardez, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Donc c'est quelque chose qu'il enseignait, l'apôtre Paul, vous voyez? Il parlait de ça. Et regardez, il parlait de ça déjà il y a 2000 ans. Je me dis, purée, il serait là aujourd'hui, mais il en parlera encore plus. Et regardez le verset 7. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, et là il est question de l'Antichrist, hein. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et là vous avez noté, verset 6 et verset 7, il est question de ce qui le retient, ce qui retient l'Antichrist, dans ce qui va, pour qu'il puisse paraître, j'allais dire, dans toute sa splendeur, entre guillemets, voyez. Ben, quelque part on le sait que ce qui le retient, c'est le Saint-Esprit, hein. C'est le Saint-Esprit qui le retient. Hein. Et j'allais dire, quelque part, jusqu'à ce que Jésus revienne, jusqu'à ce que l'enlèvement de l'Église ait lieu, c'est le Saint-Esprit qui retient. Voyez, et béni soit Dieu, on sait que le Saint-Esprit, c'est le moyen par lequel Dieu parle aujourd'hui. Le Saint-Esprit, c'est celui qui convainc de péché. Hein. Et quelque part, ce qui retient l'Antéchrist, on en ressent les effluves aujourd'hui. On sent bien que les choses se mettent en place. Quand vous regardez un peu, on sent bien que petit à petit, permettez-moi cette expression, on y va tout droit. Hein, ça se met en place, on voit bien les choses. Hein, nous, quelque part, bon, les gens ignorants, ils ne se rendent pas compte. Mais le chrétien, lui, celui qui marche avec Dieu, non pas qu'il est meilleur que les autres, mais à la lumière de ce que dit la parole, il se rend bien compte que les choses se mettent en place petit à petit pour justement que quand viendra le moment, l'Antichrist monte. Voyez, et ce qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Mais à l'enlèvement de l'Église, une fois que l'Église s'en va, le Saint-Esprit part avec. Hein, et alors là, il n'y aura plus de retenue. Et alors là, ça va être terrible. Vous savez, moi, je ne serai pas le pasteur qui prêchera ce genre de choses, parce que c'est des choses qui sont dites parfois. Vous inquiétez pas, même si vous partez pas, il y a toujours l'occasion d'être sauvé derrière. Oui, sauf que ça ne sera pas la même chose. Ça ne sera plus le salut par grâce. Je préfère partir au premier voyage, parce qu'après, pour ceux qui n'accepteront pas la marque de la bête, ça sera au prix de leur vie. Vous voyez, ça ne sera plus du tout le même tarif. Et quelque part, c'est maintenant qu'il faut se poser la question, est-ce que je suis prêt, ça va devenir infernal. Ça va devenir infernal. Peut-être on se dit, quand on regarde un peu le monde aujourd'hui, on se dit, déjà c'est pas mal. Quand on voit les lois, les trucs, enfin tout ce qui se fait, quand on voit un petit peu tout ce que subissent les chrétiens ici ou là, on a vu cette vidéo vendredi soir sur le Bangladesh, quand on voit tout ça, on se dit c'est pas mal, mais ça sera rien comparé à ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église, quand l'Antéchrist aura le champ libre. Ça va être quelque chose de terrible. Alors oui, l'enlèvement de l'Église, ça va être glorieux pour les uns, mais ça va être terrible pour les autres. Et quelque part, j'essaye de m'imaginer la scène, mais vous imaginez tous ceux qui auront entendu parler de ça, tous ceux qui auront su, parce qu'ils seront venus dans une réunion comme celle-là, qui auront entendu parler de ça et qui seront restés là. Mais ça va être terrible. Ça va être terrible, parce que quelque part, j'imagine les gens qui vont dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ça sera trop tard. D'où la question, est-ce qu'on est prêt? Et cet après-midi encore, j'insiste là-dessus, parce que c'est important. On aime parler de ça, l'enlèvement de l'Église, le retour de Jésus, ça passionne les gens. Mais ce qui est plus passionnant, c'est de savoir si on est prêt ou pas. Parce que c'est ça la véritable question. Maintenant, c'est intéressant de noter que Jésus, dans le texte qu'on a lu en introduction, nous donne quand même quelques indications, et notamment nous parle de l'époque de Noé. Et il fait une comparaison, verset 37, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et Jésus va un petit peu plus loin, puisqu'il précise un petit peu, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Petite précision, c'est un petit détail, mais si vous allez dans Luc, il est question aussi des temps de Lot. Et tant de Lot, il est dit, les hommes plantés, bâtissés, etc. Mais là, ils ne se mariaient plus. À l'époque de Noé, ils se mariaient encore. À l'époque de Lot, vous regardez, ils ne se mariaient plus. Vous voyez, aujourd'hui, on ne se marie plus. Vous voyez, c'est des petits détails, mais quand même qui vaille la peine qu'on y réfléchisse. Et ce qui m'interpelle là, concernant l'époque de Noé, moi je l'ai souligné dans ma Bible, Jésus dit, et ils ne se doutèrent de rien. Ça, c'est important. Ils ne se doutèrent de rien. Parce que quand même, quand on y réfléchit, je me dis, comment ça se fait qu'ils n'ont rien vu venir, quoi? Parce que Noé est appelé le prédicateur de la justice, dans l'épître de Pierre. Il y avait son arche qui, chaque jour qui passait, prenait un peu plus corps, prenait un peu plus forme. Et je me dis, mais comment ça se fait qu'ils se sont doutés de rien? Enfin, je sais pas, moi, ils voyaient bien quand même ce qui se passait sous leurs yeux. Puis Noé devait être en train de les avertir. Et puis, à moins d'être aveugle ou de faire comme ça, quand Dieu a fait venir les animaux, je sais pas, moi. Alors, bien sûr, on a vu des films, tout ça. Je sais pas si ça s'est passé comme ça. Mais quand les animaux arrivaient les uns derrière les autres, ils ont bien dû le voir, les gens. Enfin, je sais pas. Il y avait pas Internet, je veux bien. Mais enfin, ça devait se voir quand même. Quand toutes les espèces animales sont arrivées, je sais pas si c'était les unes derrière les autres. Mais enfin, ça a pas dû prendre un jour, cette affaire. Ça a pas dû prendre quelques heures. Vous voyez, ça a dû se voir. Et la Bible dit, ils ne se doutèrent de rien. Alors, je suis allé un peu trifouiller, chercher. Regardez un petit peu comment ça pouvait être traduit. Et c'est très intéressant parce que j'ai trouvé quelques petites variantes. On pourrait aussi traduire par « ils ne réfléchirent pas ». Ils ne réfléchirent pas. Voyez, on enlève « ils ne se doutèrent de rien » et on met à la place « et ils ne réfléchirent pas ». Voyez, une autre version dit « et ils ne reconnurent pas le danger ». Encore une autre qui dit « et ils ne furent pas attentifs ». J'ai même trouvé une autre version qui dit « et ils ne comprirent rien ». Donc, quand il est dit « ils ne se doutèrent de rien », c'est un peu tout ça que ça veut dire. Ils ne réfléchirent pas, ils ne furent pas attentifs, ils ne comprirent rien, ils ne reconnurent pas le danger. Vous voyez, et je me dis, mais quand même, ça doit nous interpeller. Finalement, s'il y a un mot qui résume un petit peu tout ça, c'est le mot « indifférence ». Finalement, c'est ça qui ressort. C'est l'indifférence. Ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont pas été attentifs, ils se doutèrent de rien, ils ne comprirent rien, ils ne reconnurent pas le danger. Ils ont été indifférents, quoi. Ouais, ils voyaient, l'indifférence. Et quand même, je me dis une chose, c'est que ce qui caractérise l'époque de Noé, c'est l'indifférence qui a régné à ce moment-là. Mais ce qui caractérise aujourd'hui notre société, et loin de moi, là, en disant ça, de leur lancer la pierre, mais c'est l'indifférence. Il y a une indifférence aujourd'hui quant aux choses de Dieu. Et je le dis sans aucune accusation, parce que avant de connaître le Seigneur, on était pareil. J'étais pareil. Si le Seigneur ne m'avait pas éclairé, si un jour on ne m'avait pas parlé, on ne m'avait pas rendu témoignage, si un jour ma mère ne m'avait pas amené à l'église, mais j'aurais été indifférent comme les autres. Voyez, et on peut bénir Dieu de ce qui nous a sorti. J'ai noté cette citation que vous avez certainement entendue. C'est un homme politique bien connu qui l'a sorti il y a quelques années en arrière concernant l'écologie. C'était Jacques Chirac. J'ai noté ça. Il a dit à propos de l'écologie, « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Vous n'avez pas entendu cette « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Alors, c'est certainement vrai, mais j'ai envie de dire, mais c'est encore plus vrai sur le domaine spirituel. Hein, ça, on sent que ça brûle de tous les côtés, on sent que ça ne va pas de tous les côtés. On a l'impression que tous nos responsables politiques essayent d'un peu de découper un peu de tous les côtés, de mettre des rustines ici et là, mais quelque part, on regarde ailleurs, quoi. On regarde ailleurs. En tout cas, on regarde certainement pas vers Dieu. On regarde certainement pas vers Dieu. Et ça, voyez-vous, ça doit nous alerter. À l'époque de Noé, les gens étaient complètement indifférents. C'est ce que Jésus nous dit. Et aujourd'hui encore, mais on vit dans ce contexte-là. Voyez. Alors, béni soit Dieu, parce que je crois que malgré ça, il y a encore des gens qui cherchent. D'ailleurs, j'en suis tellement convaincu que si ce n'était pas le cas, Jésus serait revenu. Hein. S'il n'y avait pas encore des gens qui cherchent, Jésus serait revenu. Jésus reviendra, l'enlèvement de l'Église aura lieu quand la dernière brebis sera rentrée. Mais ça, il n'y a que le Seigneur qui peut le savoir. Hein. Et je crois qu'il y a encore une foule nombreuse, comme ça a été dit à Paul quand il était à Corinthe, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Moi, je crois qu'il y a encore des gens qui cherchent. Et quelque part, Dieu veut se servir de nous. Hein. D'ailleurs, l'apôtre Pierre le dira, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Quelle promesse? Celle de son retour. Mais il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est la patience de Dieu. Il ne faut pas jouer avec la patience de Dieu, mais elle est là. Et quelque part, on est dans ce temps-là de la patience de Dieu. Alors bien sûr, aujourd'hui, certains... D'ailleurs, quand vous regardez, c'est dans 2 Pierre chapitre 3, c'est dans un contexte où il y a quelque part... il est question d'un signe des derniers temps, où on se moquera, il y aura des moqueurs concernant l'avènement du Seigneur. Plusieurs diront, où est l'avènement du Seigneur, car tout ne meurt depuis le commencement. Et c'est dans ce contexte-là qu'il dit, mais le Seigneur ne tarde pas. Hein. Il use de patience. Et quelque part, je me dis, bon, pour tous les noms pour lesquels nous prions, c'est vrai que d'un côté, on dit, viens Seigneur. Moi, je ne sais pas vous, mais moi je dis, viens Seigneur. Mais alors, viens, si tu viens maintenant, mais alléluia. Hein. Mais en même temps, je me dis... c'est bien pour nous, mais je me dis, il y en a d'autres, quoi. Hein, les fils et filles prodigues, là, hein, ceux pour qui nous prions, les conjoints convertis, les enfants, peut-être quelqu'un à qui nous témoignons depuis longtemps, et on sent que ça se fait petit à petit. Je me dis, mais Seigneur, toi, tu sais. Et si tu n'es pas encore revenu, c'est parce que certainement, il y a encore des gens que tu veux sauver, voyez. Il y a encore des gens qui sont là et qui vont rentrer dans la bergerie. Alors le Seigneur, oui, use de patience, voyez. Il y a l'indifférence qui est là. Mais quelque part, au milieu de tout ça, je crois encore de tout mon cœur qu'il y a des gens que le Seigneur va sauver. Et c'est pour ça qu'on est encore là, c'est pour ça que Dieu nous laisse encore là, pour qu'on continue à prier pour ces gens-là, et pour qu'on se réjouisse de voir d'autres brebis rentrer dans la bergerie. Alors, cet après-midi, peut-être j'oserais dire, je ne sais pas où on en est chacun pour notre part, mais si ce n'est pas fait, de grâce ne restons pas indifférents hein, aux choses de Dieu. Reste pas indifférent, reste pas là, en tendance, ça rentre là, ça sort là... On entend parler de ça, on se dit « Ah ouais !» Et puis dans une heure, quand on sera dehors, on n'y repensera plus. Et puis demain, la vie reprend le dessus, et puis on passe à autre chose. Vous savez, la vie c'est ça. Hein. Aujourd'hui c'est ça, on tourne les pages très vite. Hein. On est là, on entend, on est interpellé, et puis demain on passe à autre chose. Et la semaine reprend son cours. Mais ça, c'est hyper sérieux, quoi. L'enlèvement de l'Église, il ne faut pas rater le wagon. Et si tu n'as pas encore fait ce pas, si tu n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur, mais c'est important de vraiment se poser la question, où est-ce que j'en suis si Jésus revient? Est-ce que je reste là ou est-ce que je m'en vais? Ce n'est pas pour nous faire peur, mais c'est la parole qui veut nous interpeller. Hein. Et puis, je vais quand même aller un petit peu plus loin, parce que là aussi, ça m'interpelle. C'est cette affaire des deux, là, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Dans Luc... Ça va un petit peu plus loin. Il dit, je vous le dis, C'est Jésus qui parle. En cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit. Et c'est ça là, le surplus par rapport à ce qu'on a lu dans Matthieu. L'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. On l'a lu. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Tu peux me remettre le verset 34, le premier ? Ça, c'est le petit plus que Luc rajoute dans son évangile. Hein, deux personnes qui seront dans un même lit. Là, il s'agit bien entendu d'un couple. Alors, je vais le dire avec un petit sourire, mais je suis convaincu que dans l'esprit de Jésus, là, c'est un homme et une femme. Parce que si c'était deux hommes ou deux femmes, il n'y en a ni l'un ni l'autre qui partent. Non, mais bon, faut être clair, quoi. Hein, non, mais surtout aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, oui, c'est des petites choses, mais en lisant ça, de deux personnes qui sont dans un... L'une sera prise et l'autre laissée, c'est un homme et une femme, hein. Là, c'est, voyez, mais aujourd'hui, voyez, mais ce que j'aime dans ce passage, c'est qu'on note que, en même temps, alors c'est un petit détail, mais là aussi, ça nous montre que le Seigneur déjà pensait à tout. À cette époque-là, peut-être pour les gens de cette époque-là, ça voulait pas dire grand-chose, quoique, mais certains dormaient cette nuit-là et d'autres travaillaient. Voyez, puisque juste derrière, après, tu me remets le verset 35, de deux femmes qui moudront ensemble. Donc certains dorment et d'autres travaillent. Déjà à ce moment-là, Jésus tenait compte des fuseaux horaires. Voyez, c'est très intéressant quand on voit ça. Les uns bossent, les autres dorment. Hein, voyez, alors aujourd'hui, ça nous paraît logique, ça nous paraît normal. Mais il y a 2000 ans en arrière, c'était peut-être pas si évident que ça. Voyez, mais déjà Jésus qui connaît tout, qui sait tout, et c'est normal, c'est lui qui a tout créé. Ben, quelque part, fait ressortir cet aspect-là. Mais enfin, quand on réalise ça et qu'on réfléchit de deux qui seront dans un lit, dans un champ, etc., l'un sera pris, l'autre laissé, ça nous montre une chose, ça fait ressortir quelque chose, c'est que le jour de l'enlèvement, il n'y aura aucune erreur. Et ça, il faut que ce soit clair. Il n'y aura aucune erreur sur la marchandise. Le Seigneur ne se trompera pas. Un sera pris, l'autre laissé, et croyez-moi, il n'y aura pas des inversions. Hein. Le croyant, il ne restera pas là, et l'incroyant, il partira là. Vous voyez, aujourd'hui, bien souvent, il y a des erreurs ici ou là, il y a eu un bug, tout ça. Le jour de l'enlèvement, il n'y aura pas de bug. Hein. Le Seigneur ne se trompera pas. Hein. Personne ne sera enlevé par erreur. Vous voyez, personne ne sera enlevé à la place de quelqu'un d'autre. Et ça, je crois que c'est important. Et la leçon pour nous, c'est que ça nous montre une chose, c'est qu'il vaut mieux être au clair. Hein. Encore une fois, hein, ça, on y revient, mais encore une fois, ça nous montre que mieux vaut savoir où on en est. Mieux vaut savoir notre état spirituel maintenant. C'est pas demain, parce que le jour de l'enlèvement, l'un sera pris, l'autre laissé, et le Seigneur ne se trompera pas. Voyez, le Seigneur, il sait. D'ailleurs, Paul va le dire à Timothée, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il les connaît. Voyez, et le Seigneur y voit. Hein, quand on voit déjà dans l'Ancien Testament, il est question du peuple d'Israël qui sort de l'Égypte, et puis il est question du ramassis. Ce mot, il se dit, le ramassis, c'est quand même un peu dur, vous voyez. Mais comme pour montrer que le Seigneur, il fait la différence hein, entre celui qui lui appartient et celui qui ne lui appartient pas. Et le jour de l'enlèvement, le Seigneur, il ne se trompera pas. Il n'y aura pas une erreur. Il n'y en aura pas un dans le ciel qui se dira, oups, je dis rien parce que je ne devrais pas y être, quoi. Ça n'arrivera pas, ça, hein. Je le dis avec un peu d'humour, mais le Seigneur ne se trompera pas. Et je crois que c'est important de le rappeler cet après-midi, effectivement, si on n'est pas au clair, bah de se dire, mais où est-ce que j'en suis ? Hein, parce qu'il n'y aura pas d'erreur. Ça me fait penser à ce garçon des évangiles, vous lirez l'histoire, vous la connaissez, Marc chapitre 12, à qui Jésus va dire, c'est un scribe, hein, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas loin. C'est pas mal, hein ? On pourrait dire, c'est déjà bien. Hein. Il y en a tellement qui sont à des années-lumière des choses de Dieu. Lui, il n'est pas loin. Oui, mais pas être loin, ce n'est pas suffisant. Et on pourrait peut-être dire cet après-midi, et peut-être on en connaît des gens qui ne sont pas si loin que ça. Ils ne sont pas loin. C'est-à-dire, bon, leur cœur est ouvert, ils viennent, vous les invitez, ils viennent. Vous faites une mission avec un pasteur, machin, un truc d'évangélisation, comme mercredi soir, ils viennent. Un sujet, un film, un truc, ils viennent, ils ne sont pas fermés. Merci Seigneur, et tant mieux. Et c'est pour ça qu'il faut saisir toutes les occasions. Mais tu n'es pas loin, à un moment donné, si on ne franchit pas le cap, on restera pas loin, mais on n'y sera pas. Voilà pourquoi, si cet après-midi, peut-être tu n'es pas loin, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Venir, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. On n'est pas sauvé parce qu'on vient à l'église évangélique d'Arles, hein, ou ailleurs. Hein, on n'est pas sauvé pour ça. On est sauvé parce qu'on a fait la paix avec Dieu, parce qu'on s'est réconcilié avec lui, parce qu'on s'est repenti de ses péchés. Mais je vais quand même dire aussi, et je vais en venir un peu à ce que j'ai dit ce matin, ça nous concerne aussi les croyants. Ça nous concerne aussi. Hein. J'ai cité ce verset ce matin, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est quand même à des croyants que c'est dit. Hein. Pourtant, les Corinthiens, ils avaient tous les dons spirituels. Quand vous regardez un petit peu, c'était une église florissante, il y avait des choses qui s'étaient passées, et puis on se rend compte qu'ils étaient en train de glisser lentement mais sûrement, et Paul est obligé de dire certaines choses, voyez? Parce que je crois que c'est important, même si on connaît le Seigneur depuis des années, parce que je le crois, c'est que le jour de l'enlèvement, il y a des chrétiens qui resteront là. Enfin, des chrétiens dans le sens, vous voyez, dans le sens qu'on vient à l'église, on a été peut-être même baptisé, mais il y a des chrétiens qui resteront là. Et je me dis, quand même, ça fait réfléchir. Hein. Peut-être certains ont vu ce film, je l'avais passé un jour, je ne sais plus dans quelle église, mais Départ immédiat. Hein, le film s'appelle Départ immédiat. Je peux vous dire, quand vous regardez ce film, ce n'est qu'un film, mais hein, vous réfléchissez, vous êtes là, tout d'un coup, on vous montre l'instant d'après. Et on vous montre le moment. Et à un moment donné, dans ce film, vous voyez une église. Vous voyez une église, vous voyez le pasteur qui est là en train de prêcher, et tout d'un coup, pouf, et lui, il reste. Le pasteur, il est là avec sa Bible à la main, il reste, et il y a 5-6 chrétiens, ou 7 ou 8 là, qui sont là au milieu, et qui sont comme ça, et qui sont en train de se regarder, et qui se prennent la tête dans les mains, parce qu'ils comprennent ce qui vient de se passer. Vous voyez? Alors, bien sûr, ce n'est qu'un film. Oui, mais je me dis. Vous voyez, ça risque quand même. Et pourtant, là, on a affaire à des croyants. Vous voyez? On a affaire à des croyants. C'est pour ça que quelque part, c'est important de réfléchir à nous-mêmes. C'est important de réfléchir à nous-mêmes, de se dire, Seigneur, on parle d'enlèvement de l'Église, tous ces versets, on les connaît, ce que je vous dis cet après-midi, vous le savez, mais quand même, de réfléchir. Et puis, ce matin, on a lu 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux, tout ça, d'accord. On est OK là-dessus. Mais cet après-midi, j'en ai pris un autre, Galates 5. Galates 5. Et ça, c'est pour nous, les croyants. Or, les œuvres de la chair. Après, il y a le fruit de l'esprit. Mais juste avant, il y a. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est-à-dire, c'est évident. On peut pas le nier. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, je vous dis d'avance, et notez bien, comme je l'ai déjà dit, parce que l'apôtre Paul, il parlait de ça, voyez, que ceux qui commettent, là, il n'est pas dit les païens, hein, parce que ça, il le dit à des croyants, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et je pourrais dire, le jour de l'enlèvement, ils resteront là. Voyez. Alors regardez, on va reprendre la liste. On va reprendre la liste. Tu peux me remettre verset 19? Voilà. Alors, l'impudicité, ok. L'impureté, ça va. La dissolution, quoi qu'il faudrait peut-être regarder dans le dictionnaire, parce que des fois on pourrait être surpris. Hein. On pourrait être surpris. Bref, vous ferez ça à la maison. Mais on continue, regardez, verset 20. L'idolâtrie, bon, comme je disais ce matin, hein, j'espère qu'il n'y a personne qui prie Marie hein, au milieu de nous, parce que sinon il va falloir. Je parle de ça, mais je pourrais parler d'autre chose. Hein. Bon, on est d'accord. La magie, enfin quand même, frère, on est croyant quand même, on le sait que l'occultisme, ok. Les inimitiés des. Bon, après, celui d'après, celui d'après, celui d'après, celui d'après. Ouais, les quatre qui suivent là. Hein? Querelle, jalousie, animosité, dispute. Les divisions. Les sectes, bon. Ok? L'envie. Bon, là, ce n'est pas l'envie de chocolat. Hein. On est tous d'accord, hein, parce que là, on est tous mal. Hein. Enfin, pour la plupart, on est mal. L'ivrognerie, j'ose espérer que l'ivrognerie, quand même. Les excès de table. Bon, bref, je vais pas rentrer là. Et vous avez remarqué, et les choses semblables. Et les choses semblables. Ça veut dire qu'il y en a encore, hein? Et les choses semblables. Mais toute cette liste, quand vous le prenez, il y a des choses, c'est évident. On dit, bah, évidemment, la magie, quand même, frère, on est converti. Ben, j'ai envie de dire, j'ose espérer, quand même. Hein. Quoique, vous savez, la magie et tout ce qui tourne autour. Hein, je vais peut-être vous choquer. Hein. Oh, les croyants qui lisent l'horoscope, hein, j'en ai connu plus d'un. Hein. Ouais. Oh, bah, c'est pour rire. Ouais, bah, c'est pour rire, mais tu le regardes quand même. Hein. C'est pour. Ouais, non, mais frère, ouais, mais n'empêche qu'on le lit, tiens, et puis on le lit, et puis. Vous voyez? C'est pas grand-chose, mais on a besoin de faire attention. On a besoin de faire attention parce que c'est des brèches, vous voyez. C'est des brèches. Et quelque part, ça nous montre, cette liste-là, les œuvres de la chair, ça nous montre qu'on a besoin d'être vigilant. Et que, quelque part, l'enlèvement de l'Église et tout ça, c'est pas que pour les incroyants, c'est aussi pour nous, hein. Seigneur. Aide-moi, voilà, Seigneur. Et s'il y a des choses à rectifier, je veux les rectifier avec ton aide parce que, Seigneur, moi, je veux faire partie du contingent de départ. Je veux pas, Seigneur, me retrouver là le jour de l'enlèvement et me dire mais qu'est-ce que tu as fait, etc. Mais pourquoi, et tu le savais, etc. Non, je veux pas de ça. Je veux pas de ça. Faire partie du contingent de départ. Voyez. Alors, je termine. On le sait, Jésus revient. D'ailleurs, et on va l'afficher. C'est marrant comme dans le dernier chapitre de la Bible, il y a une insistance, Apocalypse 22, ça revient trois fois. On est dans le dernier chapitre, comme si le Seigneur voulait finir en apothéose, voyez, pour nous dire, hop, et voici, je viens bientôt. Et là aussi, vous vous rendez compte, à ce moment-là, dire je viens bientôt, mais qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui le Seigneur? Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Qu'on soit de cela, hein. Un petit peu plus loin, verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Et un petit peu plus loin encore, celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt, amen, viens Seigneur Jésus. Donc, c'est comme une insistance, le Seigneur nous dit je viens, mais encore faut-il être prêt. Et dans cette journée, je voudrais vraiment que cette question, elle puisse non pas nous faire peur, mais elle puisse nous amener à nous placer face au Seigneur. Ça, c'est une affaire personnelle après. Et dire, Seigneur, moi, je veux pas faire, je veux pas faire partie de ceux qui resteront là. Mais je veux, Seigneur, ce jour-là, si je sais pas dans combien de temps ça sera, vous savez, à l'échelle humaine, à l'échelle de l'éternité, 20 ans, 30 ans, 50 ans, qu'est-ce que c'est? C'est rien, hein. Moi, je suis comme vous, hein, je préférerais partir par l'enlèvement. Hein. Je préfère nettement ça. Ouais, on est tous d'accord. On est tous d'accord. Mais bon, en attendant, que Dieu nous aide, parce que c'est sérieux. C'est hyper sérieux. Et je veux pas être léger, pour moi-même, je veux pas être négligent. Seigneur, aide-moi, on a tous des travers, et moi le premier. Mais Seigneur, aide-nous à être sérieux, à être vigilant. Et s'il y a des choses à recadrer, ben je veux le faire pour moi, Seigneur, devant toi. Parce que Seigneur, toi, tu as payé le prix. Et quelque part, je me dis que ce jour-là, ça sera, une fois que ça sera passé, ça sera trop tard. Alors Seigneur, c'est maintenant. C'est maintenant. Alors ce soir, cet après-midi, je ne sais pas où on en est avec le Seigneur. J'ose espérer, j'ose croire que personne, j'ai volontairement été un peu appuyé ce matin, personne dans ces scénarios qu'on a cités ce matin, comme David... Personne ne fait du cinéma, enfin, j'ose l'espérer. Personne n'est dans l'illusion. Personne n'est dans le faux raisonnement, j'ose l'espérer. Parce que sinon, il faut se réveiller, quoi. Parce que Jésus revient. Alors que Dieu nous aide et que ça puisse vraiment nous interpeller, sachant que le Seigneur a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à lui. Et ça, ce n'est pas que des paroles pour les incroyants, c'est aussi pour nous, les croyants. Alors que Dieu nous aide, hein, et qu'on soit prêt, que le jour J, on parte et qu'on se retrouve là-haut dans le ciel à louer Dieu pour l'éternité. Parce que ça va être chouette, hein. Moi, je lis l'Apocalypse, tout ça, je me dis, Seigneur, je ne veux pas le manquer. Comme on a vu vendredi soir, hein, la nouvelle Jérusalem, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, hein, tout ça. Mais toutes ces choses-là, ce sont pour les vainqueurs, à celui qui sera vainqueur. Donc ça montre, comme je disais vendredi soir, que c'est pas une obligation, à celui qui sera vainqueur. Hein, Seigneur, moi, je veux pas être dans la défaite, hein. Je veux être vainqueur. Et celui qui est vainqueur, c'est celui qui va jusqu'au bout, alors que Dieu nous aide. Hein. Alléluia. Seigneur, merci encore.